Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'Épée Légendaire. Vous êtes un passionné de photos? C'est parfait car eux aussi, bienvenue dans Objectif Numérique.
Bienvenue à Objectif Numérique, épisode 32. Au menu, un troisième défi photo. Android avait été conçu pour les appareils photo au départ. Adobe fait passer sa suite logicielle dans le nuage. Une critique du téléphone Sony Xperia ZL et deux critiques du Nikon D7100 et de l'objectif Sigma 35mm f1.4. Tout un show. Alors, au micro, comme à l'habitude, François Blanchet.
Salut.
Christian Jarry.
Salut.
Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. On va enchaîner avec le troisième défi photo. Et pour ceux qui voudraient connaître le nom des gagnants des défis précédents, on vous invite à visiter le blog. Le nom des gagnants est indiqué. Et maintenant, pour le troisième défi photo, le sujet, c'est la route. Route de campagne, route de ville. La route, tout simplement. Ça peut être un sentier aussi, là, mais tout ce qui s'appelle, tout ce qui est un chemin, une route. Alors, on laisse ça quand même encore assez large, assez libre pour commencer, pour les premiers défis. Puis, plus ça ira, ben, on ajoutera des petits éléments pour complexifier un peu la chose. Mais on a eu 28 participations au premier défi photo en passant.
C'est bon.
Et il y a des gens qui étaient un petit peu gênés, qui avaient de la réticence à participer, ils n'étaient pas certains s'ils allaient être à la hauteur ou peu importe. Mais moi, je dois vous dire que il n'y a pas de gêne à avoir. Hein. Vous envoyez vos photos, puis c'est pour simplement pour le plaisir de la chose, pour apprendre. Vous allez voir ce que les autres aussi ont envoyé.
Puis je peux rassurer tout le monde de suite, j'ai vu aucune mauvaise photo.
Non, en effet, hein, c'était... Toutes des belles photos.
Oui,
puis
tout à fait.
C'est pas obligé d'être la perfection dans la photo. Là. Personne n'atteint ça nécessairement, la perfection. Là. Mais c'est pour le plaisir de participer. Puis il y a aussi eu deux photos qui ont été soumises après la date parce que les gens voulaient quand même l'envoyer. Et je les ai publiées avec quelques jours de retard, tout simplement pour laisser un écart entre les deux, là, que ça soit vraiment clair que les photos n'étaient pas admises dans le défi. Mais entre autres, il y a Maxime Tremblay qui était avec nous à l'épisode 28, qui a malheureusement a trouvé la photo quelques jours après la date limite, mais ce n'est que partie remise. Alors Maxime, voilà une deuxième chance pour toi de participer.
Oui, quand on reviendra avec ce défi-là, là, le même sujet,
non, tu vas
avoir une chance de participer.
Non, mais là, il peut participer avec la route.
Oui.
Et Dieu sait qu'il y en a de la route dans son coin de pays.
Oui, c'est vrai.
En effet.
Alors voilà. On va enchaîner avec François, tu as un petit sujet. Tu parles d'Android, mais pour les appareils photo.
Oui, et oui, comme tu disais en introduction, Android a été pensé à l'origine pour fonctionner sur les appareils photo. Alors moi, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça.
Ben moi,
moi non plus,
j'étais pas au courant.
Je suis quasiment sceptique d'un certain sens. Là,
mais quand on regarde le Samsung Galaxy Camera, ça fait du sens dans cet appareil-là, en tout cas.
Oui, mais oubliez pas, mais c'est aussi qu'Android, au début, c'est pas ce que c'est aujourd'hui.
Non, absolument. Absolument.
C'est ça qu'il faut remettre en perspective. Là.
Android, au début, c'était pour concurrencer Windows Mobile et Symbian. Vous rappelez-vous de ça?
Oui,
ça, malheureusement.
Je sais pas si ça existe encore, ce système d'exploitation-là dans les téléphones.
En fait, non, Symbian, je pense qu'il n'est pas totalement mort en Europe. Je pense qu'il y en a encore, je sais pas.
Enfin, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Symbian, tu sais.
Ouais. L'autre est mort de sa belle mort, heureusement. Windows, l'ancien Windows, là.
Ouais. Ben, c'était quand même, tu sais, des précurseurs. Moi, j'avais des appareils Windows Mobile, et même Windows CE avant, qui était...
Moi, j'étais pas mort de Windows.
Ah, ben là.
Ça marche.
T'as vu ce que Palm s'est rendu aussi? Nulle part.
Okay. Il y avait un excellent OS en WebOS, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Oui, c'est ça. Donc, on se transporte en 2006 et ça fait pas si longtemps. Là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis 2006 quand on y pense. C'est vraiment incroyable.
L'iPhone est arrivé.
Ouais.
Ouais, oui.
C'est Andy Rubin qui a développé Android chez Google qui s'est occupé de... qui voulait faire ce système d'exploitation-là pour les appareils photo. Et puis, il voyait déjà un système de cloud dans ce temps-là. Okay. C'était donc un appareil qui était pour être connecté à un système qu'ils ont pensé appeler Android Data Center. Je sais pas si ça existe encore le terme Android Data Center chez Google, mais bon, c'était le terme, c'était le service qui était pour être utilisé avec Android sur un appareil photo dans ce temps-là.
Mm-hmm.
Donc, Android maintenant est rendu avec 1 milliard d'appareils en circulation aujourd'hui.
Et oui, c'est juste ça. C'est beaucoup.
Ouais, donc c'est vraiment pas. Hein, tu sais, quand tu dis bon, moi je voudrais un système d'exploitation pour des caméras, finalement ça finit en téléphone. puis c'est quand même un succès là.
Ouais.
Je regardais aussi des chiffres aujourd'hui sur le Apple Store versus le Play Store d'Android. Puis le Play Store est rendu vraiment pas loin. C'est pas parce que j'ai Android que je dis ça, là, mais
ouais,
ça donne bien.
T'es récemment passé du côté obscur.
Oui, ouais, il y a quelques mois, mais c'est effectivement, disons que Samsung a beaucoup
Mais de toute façon, depuis un an, depuis un an à peu près, le nombre d'applications n'a plus vraiment d'importance parce que tout se fait maintenant sur les deux plateformes. Maintenant, c'est Windows Phone puis BlackBerry que là, ils ont du chemin à rattraper.
Un peu plus à la traîne, mais c'est bon, ça. Encore une fois...
Mais ça s'en vient bien.
Oui, ben, comme Android l'était il y a 2 ans, peut-être, c'était vraiment pas à la hauteur du iPhone au point de vue application. Il manquait plusieurs applications clés.
Oui.
Android est allé chercher ce qu'il fallait, je pense. Donc, même chose pour BlackBerry puis Windows Phone. On leur souhaite ça parce que ça va juste être plus sain. Mm-hmm. Puis, tu sais... Moi, j'aimais ça avoir un iPhone, mais quand tout le monde en a un, ça va bien pour certaines choses, puis pour d'autres choses, tu te dis, bon, tu sais, c'est le fun d'avoir quelque chose de différent aussi. Là. C'est comme les voitures. Il y en a qui se plaisent à avoir un modèle bien ordinaire que tout le monde a, puis d'autres qui aiment les voitures beaucoup, comme moi, qui aiment ça avoir un modèle un peu plus différent, tu sais, puis c'est une question
un peu,
de...
Je comprends un peu ton point de vue. Moi, c'est plutôt sur les applications que je me fie. Puis, autant, comme je l'ai déjà dit, j'adore ma tablette Nexus 7, puis la grosseur est superbe, puis j'achèterais pas un iPad mini parce que j'aime moins la grosseur, mais il manque beaucoup d'applications. Beaucoup, beaucoup d'applications.
Et toi, t'es un gars Mac à la base, t'as un Mac, t'as un iPhone.
Ouais, puis, je veux dire, je me suis habitué, mais tu sais, exemple, juste Plume, application Twitter sur mon Nexus 7 est correct, fonctionne très bien, mais Tweetbot le détruit tellement, là, il est même pas proche d'être aussi bon. Là. Fait que c'est juste en des affaires de même. Fait que c'est bon, c'est excellent. T'as toutes les mêmes applications. Il manque un petit peu de fini. C'est toujours ça que je dis.
Oui, c'est vrai. Une petite couche de finition.
Une petite affaire. Mais je le regrette pas. Là. Je l'adore. Ma tablette, elle fonctionne extrêmement bien. Mais bon. Mais j'ai quand même encore de la misère un peu à voir à la base pour des appareils photo. Là. J'avoue que cette bout-là... Je sais pas.
Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était une belle vision.
Ben oui, tout à fait. Moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Non. Puis, comme Stéphane le disait aussi, je veux dire, on voit que le Samsung, l'appareil photo, il prouve que ça fonctionne bien.
Ouais.
Fait que, espérons en voir d'autres.
Absolument. Et il y a Sony qui va lancer un nouveau téléphone. En fait, il n'y a pas d'annonce pour le Canada en ce moment ou quoi que ce soit, mais il y a un nouveau téléphone avec un capteur 2/3 de pouce, ce qui est quand même... assez respectable pour un téléphone,
bon.
Un flash au Xenon et des contrôles manuels comme le RX100. Donc, on avait parlé il y a quelques épisodes, plus ça allait, plus les téléphones et les appareils compacts allaient fusionner en quelque part.
J'imagine que ça va être Android.
Écoute, il n'y a pas beaucoup de détails parce que c'est sur le site sonyalpharumors.com. Okay. Par contre, bon, il parle que il va avoir un moteur JPEG pour la compression et tout ça qu'on va voir dans les prochains appareils Alpha et NEX. Donc, probablement...
Quelque chose d'assez développé, assez travaillé.
Oui. Enfin, ça va être
Dieu
à surveiller.
Je sais que Sony, ces temps-ci, pour ce qui est des appareils photo et tout, font du très, très bon travail. Franchement, là, je suis agréablement surpris.
D'ailleurs, ben, je vais parler tantôt du Xperia ZL, qui a aussi quand même un capteur respectable à l'intérieur. Donc... Sony sont dans la course, je dirais règle générale là, sur le marché. Là. C'est sûr que bon, Canon, Nikon, ça demeure les références pour la grande majorité des photographes. Mais j'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus de Sony. Là,
moi aussi. C'est la nette impression que j'ai, moi aussi.
Ouais. Ensuite, pour faire un changement de sujet complètement, on s'en va dans le logiciel. Et c'est Adobe qui récemment a pris la décision de ne plus vendre de logiciels qu'on appelle standalone, en version complète, si on veut. Mm. Ça va être un abonnement par le Creative Cloud. Et ça va être un abonnement mensuel. Et on va pouvoir choisir quel logiciel on veut avoir et tout ça. Je crois que ça va aller de 20 jusqu'à 50 $ par mois selon les logiciels qu'on choisit. À 50 $ je crois qu'on a la totale, on a tous les logiciels. Mm. Mais ça fait quand même des sous là, à ce moment-là. Par contre, ça a généré beaucoup de grogne
avec
sur,
raison,
sur Internet. Et d'ailleurs, ben justement, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Que pensez-vous justement de Photoshop et compagnie? Parce qu'en passant, on parle de tout ce qui est CS, la Creative Suite. Donc, Lightroom n'en fait pas partie, ou en tout cas, peut-être fait partie du package si on veut prendre l'abonnement complet.
Ouais.
Mais il reste encore une version logicielle en ce moment. Et même Photoshop CS6 va profiter de certaines mises à jour, mais pas toutes, là, probablement au cours de la prochaine année, ou en tout cas des prochains mois, ça c'est sûr. Donc, c'est une transition en ce moment, mais j'ai l'impression que tout s'en va vers le nuage.
Ben, je pense qu'on se trompe pas en disant que c'est une décision. En tout cas, moi, c'est une décision à cause de la piraterie des logiciels. Ouais, du piratage.
Ouais, carrément.
Parce que c'est... Écoute, qui, tu sais, il y a vraiment un grand bassin de gens qui vont servir, tu sais, de ces logiciels-là au prix qu'ils se vendent. Ouais. Les professionnels ne se posent pas la question. Les compagnies, tout ça, vont acheter le logiciel, mais les personnes chez eux, chez elles qui décident d'utiliser un logiciel, souvent, ils vont recourir à... Fait que c'est eux autres qui doivent chialer en ce moment. Là. C'est eux autres qui doivent se plaindre, là, c'est sûr.
Absolument.
C'est sûr, mais en tout cas, moi, si je me fais l'avocat du diable, mon principal problème avec ça, c'est on paye tout le temps. Il n'y a jamais rien à toi là-dedans.
Non, parce que c'est ça, en ce moment, la plupart des gens vont acheter une version. Comme moi, j'ai acheté CS5, j'attendais le CS7 pour sauter une version et économiser un peu en faisant une mise à jour sur deux, si on veut. Mais là, ça ne sera plus possible. Ça prend un abonnement mensuel. Bon, mon CS5 va continuer de fonctionner, je présume, en tout cas.
Les vieux, ils fonctionnent encore. C'est pas ça le problème. C'est simplement parce que t'as pas les nouvelles affaires, t'as pas les nouvelles
fonctionnalités,
les updates, etc. Si tu veux les avoir, ben, c'est obligé d'aller sur la version de main. Mais moi, je demeure très sceptique à ce que... Moi, je pense que c'est un essai. Je suis loin d'être convaincu que c'est quelque chose qui va durer. Parce que, regardez, on va faire un parallèle avec les jeux vidéo. Juste à regarder le lancement que SimCity a eu, le dernier SimCity que Electronic Arts a fait, qui a été...
Une catastrophe
incroyable.
Ouais,
parce que les serveurs fournissaient pas, parce que ça. C'est tous des problèmes qui sont potentiellement qui peuvent arriver. Ouais. Là.
Oui, mais attends, le volume d'utilisateurs, c'est pas la même chose du tout. Là, entre un jeu vidéo comme The Sims puis.
Oui, mais attends.
Toute une question de planification. Est-ce qu'on a la preuve que Adobe a vraiment
l'infrastructure
pour ça?
Ah oui, effectivement.
Il y a ça, mais.
Mais là, on parle, le logiciel va être dans le nuage.
Non, mais
il n'y aura
en fait,
rien de
oui
local
non,
du
non,
tout?
Non, en oui fait, et non, c'est le ça. Logiciel, okay. Le logiciel va être disponible en téléchargement et il va falloir que tu sois au moins connecté une fois tous les 30 jours, je crois, au serveur d'Adobe pour valider
okay, ta copie. OK, donc le programme 99. Est quand même localement sur ton ordinateur.
Oui.
C'est juste qu'il ne va jamais fonctionner si tu n'es pas connecté à l'Internet.
Ben, si tu te connectes le vendredi avant de partir au chalet ou à la plage, ben là, il va fonctionner pendant tes vacances.
OK, OK.
Mais éventuellement, au bout de X temps,
ben,
c'est combien de jours?
99 jours pour ce qu'ils disent. Puis éventuellement, ils vont même augmenter à 180.
Ah, OK.
Bon, c'est quand même pas mal. Ça, au moins, c'est pas mal, là, j'avoue. Là.
Entre 3 et 6 mois.
Il faut qu'il appelle à la maison de temps en temps.
C'est
pour,
ça. Ce qui n'est pas si mal, mais ça implique que quand même, bon, à la limite, tu peux dire, ben, je m'abonne pour un mois ou pour un an, puis tu décides d'arrêter pendant 6 mois, mais là, il faut que tu recommences après. Puis bon, est-ce qu'il va y avoir des frais de réadhésion?
Ouais.
Je ne le sais pas. Mais bon, c'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité en ce moment. Par contre, ben, c'est le même modèle un peu que Microsoft a pris avec Office 365. C'est un modèle où, justement, quand l'ordinateur se connecte, ben, il vérifie constamment s'il y a des mises à jour. Donc, forcément, en ayant un modèle comme ça, où le logiciel se connecte au serveur, dès qu'il y a une mise à jour, elle peut être appliquée. Et puis, on bénéficie tout de suite des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça peut être un point positif pour ceux qui aiment ça, à tout le
et
moins.
Ou, on va revirer ça d'autre bord, un point très négatif parce que qui n'a pas ici eu une mise à jour qui a empiré la situation?
Ça peut arriver, effectivement.
Ça nous est tous arrivé.
Ouais.
Fait que, oui, c'est bien, sauf que c'est pas nécessairement bon d'installer toujours la dernière mise à jour immédiatement. On l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. On installe une dernière mise à jour. Ben, c'est pas toi, François, avec Evernote?
Oui,
ou...
même moi aussi, avec Evernote, récemment. Il y a eu une mise à jour qui a tout bousillé. Il fallait désinstaller Evernote et le réinstaller.
Mais mon meilleur exemple de patience, là, t'sais, avant d'updater un logiciel que j'avais, ça s'appelle Windows Vista. Je me suis dit, quand c'est sorti, je vais attendre parce que c'était...
Et t'as bien fait.
Hey, je l'ai jamais eu, en fait. Moi, ça n'a pas pris de temps que les gens se sont mis à dire...
En fait, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu parce que j'étais MCSE dans ce temps-là, puis des fois, t'as des essais, t'as des choses. Je l'ai essayé 48 ans. Ça a été tout.
Mais moi, je comprends pas parce que je l'ai utilisé pendant à peu près 2 ans, Vista, sur mon PC de travail. Puis j'ai tout simplement désactivé ce qu'il appelait le User Access Control, ou je sais pas trop. C'est la petite fenêtre pop-up qui te demandait à chaque fois, est-ce que c'est bien toi? Oui, es-tu sûr que tu veux vraiment installer ce truc? Mais une fois que ça s'est désactivé, Vista fonctionnait à merveille. C'était...
Sauf qu'il était beaucoup plus dur sur les ressources, moins optimisé, etc.
Je venais de me faire une mise à niveau de mon PC. J'ai jamais remarqué ça.
C'est pour ça, parce que tu l'aurais remarqué. Moi, quand tu dis, là, tu perds 15 à 20% de la puissance de ton ordinateur en installant juste Vista, tu fais comme intéressé.
Enfin.
Ouais.
Mais bon, je doute que les mises à jour des logiciels Adobe fassent ce genre de truc, de prendre 20% de.
C'est sûr et certain, mais je veux dire.
Non, mais
il
on
n'est
pas
avoir...
à l'abri d'un bug.
Exact.
C'est clair.
Exact. Puis je sais pas. C'est juste le fait de. Comme je disais, c'est que là, maintenant, tu es obligé de toujours payer. Tu veux avoir l'accès, tu payes.
Oui, absolument.
Puis, regarde. Tu sais, on dit il sera pas possible de le pirater. Moi, je vous garantis qu'en dans 6 mois, puis je mets ça long à mon humble opinion, il y a quelqu'un qui va avoir réussi à pirater ça.
Ben oui, mais c'est un peu comme justement les versions de Windows. Il y a plein de gens qui avaient une version piratée de Windows parce que il y a quelqu'un qui avait piraté et qui faisait croire à Windows qu'il se connectait au serveur Microsoft pour activer la licence.
Voilà,
c'est, la
que
même chose,
dis, c'est ça. Là. Il va avoir des moyens incroyables. Je suis même pas inquiet.
Moi, je suis content d'avoir une version fonctionnelle de Photoshop. Puis si éventuellement, j'ai pas le choix... Oui, ça fait un pincement parce que c'est un paiement mensuel comme plein d'autres trucs dont, tu sais, qu'on a à payer à chaque mois. Mais si le prix, au bout de la ligne, revient un peu moins cher, admettons, moi, j'ai seulement besoin de Photoshop. Ben, si mon Photoshop m'a coûté 500$, mais que ça me coûte 20$ par mois pour... L'inscription, là, si on veut.
C'est 20$. Moi, ce que je vois là ici, là, c'est pour Photoshop, c'est 20$ par mois si tu prends... Attends. Si tu prends un commitment pour un an. Donc, si tu dis tu vas le prendre pour un an...
Donc, c'est 240$.
Exactement. Ou au mois, c'est 30$.
Bon.
Que tu peux l'annuler quand tu veux.
Bon. Mais je trouve ça quand même correct de dire, ben je vais payer pour un an, c'est 240$. De toute façon, il y a une nouvelle version de Photoshop à peu près aux 12 à 18 mois. Disons 18 pour être gentil.
18 à 24. Je dirais 18 à 24. Sauf que là, si tu fais le calcul, 18 à 24, tu retombes pas mal.
Là, ça fait 500$.
T'es pas perdant. J'en suis conscient que t'es pas nécessairement perdant. C'est juste... En tout cas, je sais pas.
Mais c'est qu'on est un peu prisonnier, si on veut, du nouveau modèle, si on veut. On peut pas décider vraiment. C'est Adobe qui dit, ben... Enfin... On verra, l'avenir nous dira si les gens ont assez protesté pour qu'Adobe revienne sur sa décision ou modifie le modèle proposé.
Si le monde n'embarque pas, ils vont être obligés de changer qu'ils le veuillent ou qu'ils le veulent pas.
Oui, c'est clair.
Ça va être ça. Là,
parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens, justement, ou les gens qui ont déjà une version piratée ou peu importe, vont rester avec leur logiciel puis ils vont se dire, tant pis pour les nouvelles versions. Hein. Si c'est plus accessible, on ne les prendra pas, mais on en a toujours une d'accessible quand même, de fonctionnelle. À moins qu'Adobe ait trouvé une façon de contourner le problème et de demander une activation à distance sur les copies piratées. Mais bon, c'est une autre histoire. Je n'en ai aucune idée. On verra, comme je disais. L'avenir nous le dira.
Moi, je le sais, mais je ne le dis pas. Ben oui, il demande le plus d'activation. Il sait à la même affaire que Windows. Il va checker des faux serveurs.
C'est ça. Qui t'a dit ça?
Je sais pas.
Le jeu du chat et de la souris.
Ouais. Et changement de sujet, on va passer maintenant aux critiques. On a plusieurs critiques pour cet épisode. Donc, si vous permettez, je vais commencer avec le Sony Xperia ZL que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, ça fait déjà un petit bout de temps, au moins un mois et demi. Il fallait trouver le bon moment pour l'insérer dans un épisode.
C'est pas grave, il est encore à date de toute façon.
Ben oui, c'est tout récent, il est sorti début avril. Là, donc,
voilà, puis tu sais, je veux dire, les nouveaux appareils sont aux 3-4 mois maintenant. Fait que t'es encore correct.
Il reste quelques semaines.
T'es encore correct.
Non, blague à part, c'est ça. Comme je disais, bon, le Sony Xperia ZL est sorti début avril, le 2 avril, si je me souviens bien. Il coûte 600$ sans contrat, sans entente avec un fournisseur, ou seulement 100$, 99,95$ avec une entente de 3 ans, du moins chez Bell, c'est là où j'ai vérifié. Mais il est disponible chez d'autres fournisseurs aussi. Bon, c'est un téléphone Android, mais la particularité, la raison pour laquelle j'en parle sur le podcast, je l'avais déjà mentionné, c'est qu'il a un bon capteur pour la photo. C'est un capteur XMORE 13 mégapixels en format 4.3, 4 tiers si on veut, et de 9 mégapixels en 16.9. Et il est équipé d'une fonction de réduction du bruit et un filtre de précision. ça fait quand même des belles photos. Par contre, en tout cas, vous vérifierez dans les notes si vous ne voyez pas de photos, malheureusement, c'est que je ne les ai pas retrouvées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai eu de la difficulté à m'envoyer les photos.
Ah bon?
Et ouais, et j'ai eu des petits problèmes techniques. Et donc, en ce moment, je
l'ai. On va être obligé de te croire sur parole, finalement.
Oui, non, absolument. Ben, j'avais pris des photos, écoute, de bananes, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a l'effet partial color, donc couleur partielle, si on veut, où on peut sélectionner une couleur dans l'écran de l'appareil. Et c'est uniquement cette couleur-là qui va demeurer. Le reste va se retrouver en noir et blanc.
Ooh.
Et ben, j'ai choisi une banane pour le jaune. Facile, à ouais. L'écran et tout ça. Donc, je me suis amusé à faire des photos avec l'appareil. Et ça sortait bien, c'était intéressant. Et là, ben, enfin, je ne les retrouve pas, mais si je les retrouve, évidemment, vous les verrez dans les notes d'épisode à ce moment-là. L'objectif de l'appareil a une ouverture de f2.4, ce qui est correct.
C'est correct.
Il y a plusieurs téléphones, le HTC One, l'iPhone, ont une ouverture un peu plus grande, mais encore là, ça dépend du capteur aussi. Ça dépend
il y a beaucoup de facteurs trucs, qui rentrent en compte.
Ça dépend de l'équivalent en focale aussi, que je n'ai pas réussi à trouver. Mais
c'est
des
toujours relativement assez large d'habitude, ouais, c'est d'un 20-30, pas bien ben en bas de ça. Là.
Bon, enfin, si jamais je trouve l'information, elle sera dans les notes aussi, mais en ce moment, je ne l'ai pas. Par contre, une caractéristique vraiment intéressante, dont j'avais parlé aussi avant même de toucher à l'appareil, c'est le mode rafale qui permet de faire environ 15 images à la seconde.
Ben, mais oui.
Elle permet de le faire sur 67 secondes, donc 999 images en rafale.
Tu vas remplir ton téléphone bien avant ça.
C'est clair. À mais 13 mégapixels, ça va vite.
À résolution maximale?
Oui, mais avec un seul point de focus. Le point de focus,
oui, mais
pas.
Quand même.
C'est quand même pas mal.
Ça veut dire qu'il y a un excellent processeur là-dedans parce que c'est 13 mégapixels en rafale. Wow.
Pas pire.
Moi, je suis étonné.
Y a-tu possibilité de rajouter une carte micro SD ou...
Bien sûr, et on peut ajouter jusqu'à 64 gigaoctets avec une carte micro SD.
Ça commence à devenir très intéressant.
Oui, mais ça supporte micro SD XC aussi, ouais. Micro SD HC, etc. Donc, quand même intéressant. Et ensuite, évidemment, on peut filmer de la vidéo 1080p, ce qui est intéressant. Il y a un mode HDR intégré. Donc, ça peut aider dans les cas de...
Ouais.
Non? Bon.
Ouais, ben, je sais pas. Moi, je suis...
Moi, je
ne
je l'ai pas testé.
Ça s'améliore. Hein? Moi, j'ai vu des HDR très bien faits.
En vidéo?
En vidéo, non. Là, tu parles en vidéo, là?
Oui.
Pas en photo.
Notre vidéo HDR.
J'ai même pas... J'ai pas...
C'est ça. Malheureusement.
Je suis très sceptique de qu'est-ce que ça doit donner.
Ouais, je l'ai eu quelques jours. J'ai pas eu...
C'est-à-dire que ça enregistre deux canaux vidéo différents pour ensuite, ça va les joindre ensemble, travailler ça, j'imagine, c'est
probablement.
Ça?
Probablement.
J'ai la misère à croire qu'il fait ça en 1080p, par contre, là, mais... En tout cas.
Eh hey, bien, écoute, si c'est ça.
Ah,
wow.
Ça se peut, mais. En tout cas.
Ça,
moi, je sais pas.
À voir, mais moi, j'ai pas
l'HDR, d'habitude, c'est pas fameux qu'est-ce que ça donne. Tu sais, je veux dire, s'il faut que tu le fasses toi-même, le HDR, il faut que tu prennes trois photos. Puis
c'est de l'art.
C'est de l'art. Là, c'est un art que tu dois aimer. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans le passé, j'aime pas.
Non, mais il y a des gens qui vont trop booster les couleurs ou les contrastes ou les trucs en
si
HDR.
Si par des gens, tu veux dire 80% des gens, je suis d'accord avec toi.
Oui.
Ben, excusez-moi, là, je veux pas être méchant, j'aime pas particulièrement la HDR.
Non, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens. Mais quelqu'un qui est déjà venu sur l'émission, Eric Santerre, a fait du HDR récemment en vacances. Puis s'il permet, je vais mettre un lien vers sa photo. Il l'a envoyé sur Pixoto, je crois, puis il a gagné. Il était dans les top 10 ou 20%.
Je ne sais pas que j'en ai vu des excellentes, là, de certaines photos qui étaient très bonnes, mais c'est la très, 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 très faible minorité. C'est trop extraterrestre, ça. Trop.
Ben, en tout cas, où je te montrerai, moi, la seule et unique photo d'HDR que j'ai faite. Et puis tu me diras si vraiment c'est horrible ou si tu fais comme « Ah oui, ok, c'est... »
Ah non, il y a des utilités, j'en doute pas. Il y a des utilités.
Parce que, tu vois, moi j'avais photographié un bateau au Vieux-Port de Montréal.
Mm-hmm.
Et puis la coque du bateau, c'était complètement noir, mais il y avait pourtant des taches de rouille, des trucs comme ça intéressants. Mais si je prenais les taches de rouille, le ciel était blanc.
Ouais, évidemment.
Et si je prenais le ciel, la rouille paraissait pas. Et là, j'ai fait un HDR, deux photos. J'ai exposé pour le ciel, j'ai exposé pour la rouille.
Okay,
et
j'ai fait
un mélange là, dans Photoshop. J'ai laissé Photoshop calculer et il m'a sorti un bon résultat qui a l'air naturel. Qui
fait juste enlever l'ombre. Ça, je te crois.
Moi,
mais c'est pas ça qu'on voit d'habitude
non,
dans la HDR. C'est pour enlever sous toute trace d'ombre, même dans des places qui devraient en avoir. Puis on le sait. L'œil humain le sait
ben,
et
les gens,
le comprend.
C'est,
pis...
c'est que les gens le font trop à l'extrême. C'est trop
puis le pire, c'est que je sais que c'est voulu. C'est ça qu'ils veulent. Puis c'est correct parce qu'on veut envoyer une image complètement différente. D'ailleurs, on a comme dévié, mais en tout cas. Mais je le comprends, ça. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Mais certaines personnes apprécient beaucoup. Il y en a que je connais qui ne jurent quasiment que par ça.
Mais
ça dépend des gens.
Dans un épisode futur, on traitera vraiment du HDR. Et non seulement on va en parler,
on va le faire
avant.
Je suis d'accord. On va se donner un défi de faire. Je suis d'accord.
Ouais.
C'est bon.
Donc, ça sera notre défi photo à nous pour dans quelques
c'est
épisodes.
C'est bon, ça, des
c'est
défis
bon, hein?
photo pour nous.
Ouais.
C'est pas pire, ça. Ouais, j'aime ça me plaît.
Et si jamais.
On va faire voter les auditeurs.
Oui, aussi. S'il y a des auditeurs qui veulent participer,
c'est
ben,
super.
Ils participeront aussi, pourquoi pas. Mais bon, pour revenir à nos moutons, premièrement, le défi photo.
Nos appareils photo. Ou nos. Non, en fait, nos téléphones.
Oui, pour revenir à nos téléphones. Et pour clarifier, le défi photo numéro 2, c'est le thème, c'est la route ou le sentier ou peu importe. Le défi photo HDR, ce sera une autre fois. Mais pour revenir au Xperia ZL, donc, bon, comme tout bon téléphone, il y a toute la connectique Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Je ne m'attarderai pas trop sur les caractéristiques du téléphone en tant que tel parce qu'il se tient bien dans la moyenne. C'est pas un appareil extraordinaire au niveau des caractéristiques, mais... C'est pas un mauvais téléphone non plus, c'est il fait le boulot dans à peu près toutes les circonstances.
OK, c'est pas un flagship comme ils appellent là, tu sais, ceux qui ont généralement les processeurs les plus puissants, etc.
Il y a un bon processeur, il est à 1.5 GHz si je ne m'abuse, mais il y a quand même, tu sais, il y a un écran de 5 pouces à 1080p, ce qui est très intéressant.
Ouais,
l'écran est très clair, ça donne une densité, si tu veux, de 441 points par pouce, c'est plus que l'iPhone.
C'est vrai, c'est très bon.
C'est pas un des écrans les plus lumineux sur le marché? Il me semble que j'ai lu ça en quelque part.
Par contre, il y a un petit bémol sur l'angle de vision.
OK.
C'est pas parfait dans tous les angles
de vision.
C'est un
compromis.
Et il y a des gens que ça agace, mais moi, quand
ça m'agace pas
mon téléphone, je le regarde de face.
Ouais,
ben c'est pas juste ça. Ton téléphone, tu l'utilises pour toi. C'est pas pour utiliser... Quand tu vas le montrer à d'autres personnes, tu vas le montrer droit, généralement. Tu le montres pas en angle. L'angle de vision, ça n'a jamais été un gros argument pour moi.
C'est rare qu'on se retrouve 4 ou 5 autour d'un téléphone pour regarder quelque chose.
C'est ça. C'est plus pour une télé, souvent, que c'est important.
Là, oui, les anciens écrans d'ordinateur, les télévisions, ça valait la peine. Mais pour des téléphones...
Non. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé son écran. C'est l'appareil aussi, le boîtier, le design, c'est super.
Solide, tout ça.
Et il y a un autre truc vraiment intéressant, c'est que au bas du boîtier, il y a une espèce de petite diode qui change de couleur selon ce qui est affiché à l'écran. Donc, si tu affiches une photo, comme ma photo de banane, où il y avait beaucoup de jaune, la diode devient jaune en bas. C'est un petit détail, mais c'est le fun. C'est joli. Donc,
ça me fait penser, excuse, hein, on te coupe beaucoup dans ton...
Ça va.
ça me fait penser à une technologie, je me rappelle plus quelle compagnie, une télé qui avait sorti.
Oui, pour à l'arrière de l'écran.
Oui,
il y avait...
c'était une expérience, c'est-à-dire que ça projetait la couleur dominante. De l'image.
La couleur dominante
de l'image que tu écoutes. Donc, ça donnait une impression plus grande.
Ouais.
Ça donnait une meilleure technologie. Ouais. Là, mais... je trouve que c'était intéressant. Je l'ai pas vu en personne, mais ça ressemble un peu
Sony
à ça.
Sony s'est basé là-dessus, ou peut-être que c'était un téléviseur Sony aussi, je ne me souviens pas.
C'est possible.
Mais je trouve ça intéressant. C'est bien. Tu regardes même, tu écoutes de la musique, ton album musical, la couverture, l'image de couverture, si elle est complètement bleue, ben ta diode devient bleue.
C'est mignon, c'est un petit détail, mais c'est intéressant.
Ouais. Pour revenir aux caractéristiques photo, on a un mode Superior Auto qui a 36 scènes différentes, donc ça peut être très intéressant. Par contre, il n'est pas parfait parce qu'évidemment, c'est un mode automatique. Donc oui, il y a beaucoup d'algorithmes, il est programmé pour à peu près toutes les situations, mais évidemment, il ne fera peut-être pas exactement les mêmes... Il ne prendra pas les mêmes décisions qu'un humain va prendre en fonction de la scène précise. Mais ça peut être quand même utile dans des situations où on ne sait pas quel paramètre choisir pour son appareil photo. Donc, ça, c'est intégré et c'est intéressant. Là, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Pour la photo, évidemment, il y a le mode HDR aussi. S'il l'a en vidéo, c'est tout à fait logique qu'il l'ait pour le mode photo. Il y a un mode panoramique. Il y a la détection des sourires. Donc, aussitôt qu'il détecte un sourire, il va mettre il va faire la mise au point sur le visage. Évidemment, ça peut tout se désactiver, ces trucs-là. Là. C'est pas, comment je pourrais dire?
Obligatoire
ou instantané. Contrôle de balance des blancs. Il y a même une minuterie, si on veut se prendre aussi en photo.
Ah, ça, c'est le fun. Ouais, parce que souvent, il faut aller chercher une application qui le fait.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas ça sur la majorité des téléphones.
C'est bien.
L'ISO est configurable, ce qu'il n'y a pas sur beaucoup de téléphones aussi.
Ouais, effectivement.
C'est assez surprenant. Il y a beaucoup de choses,
Il y a un bouton dédié pour prendre la photo, donc pour faire la mise au point et pour déclencher. Donc, il y a deux étapes, si c'est deux phases.
Ouais.
Donc, ça aussi, c'est intéressant.
Oui, tout à fait.
Par contre, le bouton, quand on n'est pas dans l'appareil photo, ne va pas déclencher, ne va pas activer l'appareil photo, si on veut. Donc, pour ça, ça peut être agaçant, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça bien parce qu'on ne se retrouve pas constamment dans le mode photo. Donc, ça peut être, ça dépend vraiment de vos goûts personnels. Et l'appareil, ce qui est aussi intéressant, résiste à l'eau. On peut le plonger dans un bocal et puis il
n'y
a pas de problème.
Hey, il y en a des accidents?
Oui. En fait, on l'a testé devant moi. Je ne l'ai pas testé à celui que j'ai pour mon prêté.
Je m'en doute, tu ne prends jamais ce risque-là.
Non, mais j'aurais pu le faire et leur dire, écoutez, s'il y avait un problème, regarde, je l'ai testé, la résistance à l'eau, mais bon, je n'ai pas pris de chance. Mais je l'ai vu de mes yeux sur... appareil.
C'est celui-là que je voyais, le dernier James Bond, qui, je ne sais pas si vous avez vu la publicité qu'ils ont faite.
Tu veux dire...
La publicité, oui.
Skyfall?
Oui. Parce que je me rappelle avoir vu une publicité pour, puis c'était... Il y avait comme avant le spectacle, avant la projection, il montrait puis il disait, il avait donné des drinks gratuits à tout le monde dans l'endroit, puis à un certain moment donné, on dit, il y en a un dans place qui a un téléphone dans son chose et ils l'ont fait sonner. Puis il était à l'intérieur du drink, puis il sonnait. Fait que je me demande si c'était pas... Ça fait un certain bout de temps, mais je suis pas mal sûr que c'était celui-là.
C'était
ou en tout cas un
Xperia Z, probablement.
Peut-être. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, moi, je suis comme, aïe, ça fonctionne dans l'eau. Fait que ça se peut très bien. C'est pas une mauvaise chose, de toute façon.
C'est parce qu'il y a une technologie maintenant qui est une micro-pellicule qui peut envelopper un téléphone ou un autre appareil et qui le rend imperméable.
Ah.
Donc, ça peut être tout simplement un truc comme ça qui
j'aurais
est pas
besoin
nécessairement
de ça sur mon 3DS.
Ah oui, je me souviens où tu l'as échappé d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Let's go.
Enfin, passons au point négatif. on m'avait présenté une photo prise, d'accord, par un photographe professionnel qui avait été prise avec l'Xperia ZL dans un bar, pas trop d'éclairage, et c'était un verre avec un drink dedans. Celle-là, je l'ai la photo. J'ai pris la photo en photo avec mon appareil. Mais quand j'ai essayé de reproduire, évidemment, moi, j'avais du bruit dans ma photo. Donc,
basse lumière.
Post-production.
Je ne sais pas combien de post-production a été faite sur la photo qu'ils nous ont montrée.
Était-ce vraiment avec l'appareil?
Ouais, non, mais quel était le véritable éclairage à ce moment-là? En tout cas, j'ai pas les paramètres pour reproduire exactement la scène. Donc, Mais je me permets de laisser un petit bémol là-dessus parce que j'ai l'impression que il y a quand même du bruit dans les photos en faible luminosité. Moi, j'en ai eu. Mais bon. L'autonomie de la pile, correct, ordinaire, je dirais, mais il y a un mode stamina pour économiser la pile. Donc, ça va fermer des applications ou désactiver des fonctions si on veut que la pile dure plus longtemps, évidemment.
Mmh. C'est bien.
Donc, c'est bien pensé, ça aussi. Surtout si on est pour s'en servir longtemps en mode appareil photo, ben pourquoi se servir de toutes les autres fonctionnalités du téléphone? C'est une bonne chose. Puis, il y a une caméra située à l'avant de l'appareil pour des discussions Skype ou peu importe, mais elle est placée au bas du boîtier.
Okay.
Et ça, personne ne comprend pourquoi.
Sérieusement, là?
Oui, non, mais c'est qu'à l'horizontale, si tu couches le téléphone, c'est pratique, mais à la verticale, ce qu'on utilise le plus souvent...
Ouais, tu parles pas à Skype en horizontale, me semble. C'est, c'est étrange.
Donc, c'est un petit point négatif, mais...
c'est pas comme ça qu'on utilisait ça si souvent que ça, de toute façon.
Non, honnêtement, on a beau avoir FaceTalk sur les iPhones ou peu importe, Skype...
FaceTime,
excusez.
Sérieux, je pense que j'ai utilisé ça une fois.
Ben, moi aussi, je l'ai utilisé à l'épicerie déjà pour faire une blague. Évidemment, je me suis dit, je dois utiliser FaceTime au moins une fois à l'épicerie pour dire, chérie, qu'est-ce que tu veux exactement?
Ça va plus vite par SMS.
Oui, c'est ça. Mais non, mais c'était cool quand même.
Oh, ouais.
Mon surnom n'est pas le technophile pour rien. Je ne vais pas envoyer un SMS si je peux utiliser FaceTime à l'épicerie.
C'est sûr, c'est sûr.
Mais bon, en conclusion, ce petit appareil-là, ça me redonne de l'espoir quant à la réputation de la marque de Sony parce que la série Xperia avait des appareils corrects mais qui ne se démarquaient pas dans rien. Puis là, avec le capteur, avec tous les petits trucs qu'on a ajoutés autour de ça, je trouve que c'est. Tu sais, il y a des gens qui vont dire c'est pas le Galaxy S4, c'est pas le HTC One. Oui et non. Le HTC One, les photos qui sont prises, je pense que c'est des 4 ou 8 mégapixels parce que le capteur est plus. Ils ont décidé de mettre moins de mégapixels sur la grosseur du capteur pour qu'il y ait moins de bruit, mais l'image est moins bien définie. Donc,
moins de détails.
Moins de détails parce qu'il y a moins de pixels. Donc. Je ne sais pas c'est quoi le compromis qui doit être fait à ce niveau-là, mais moi, je trouve que, bon, dans la majorité des situations, l'Xperia ZL va donner des bonnes photos. Évidemment, là, si vous forcez la main, c'est pas le Lumia 920 non plus. Là.
Ouais, ouais.
Mais c'est quand même bien. Là. C'est...
De toute façon, ça a été démontré qu'en lumière du jour, les appareils photo, ils s'équivalent à peu près tous.
Ouais,
là,
tu
peux avoir, à ce moment-là, justement, ce qui peut être intéressant... Au niveau du ZL, c'est le contrôle d'ISO, la minuterie, la balance des blancs, que c'est pas tous les téléphones qui ont ça.
J'ai même rarement vu ça, la balance des blancs sur un téléphone. C'est très rare.
Donc, il y a des avantages que d'autres appareils ont pas.
Ouais.
Parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir un appareil qui fait des photos à 13 ou 15 mégapixels, mais à un moment donné, s'ils font tous la même chose à l'extérieur, je veux dire, c'est...
Ouais.
C'est important de se démarquer à certains niveaux.
Oui, c'est sûr.
Enfin, alors voilà. Donc, pour un téléphone, moi, je le recommande. C'est un bon appareil. Et en plus, pour un appareil photo, en tout cas, si vous faites beaucoup de photos avec votre téléphone, ben pourquoi pas? Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Alors, Christian, maintenant, va nous parler du Nikon D7100.
Oui, encore un autre Nikon. Ben oui. Nikon est particulièrement généreux avec nous ces temps-ci.
Oui,
on s'en plaindra pas, oui, définitivement. Un autre appareil que j'ai bien apprécié, je dois dire. Par rapport à mon 7D, j'ai bien aimé le fait qu'il était un peu plus léger. Mais en demeurant aussi solide, j'ai vraiment eu la même impression là, de solidité quand j'avais cet appareil-là. Mm-hmm. Une bonne prise en main. Tu sais, quelque chose qui a été agréable à utiliser. J'ai toujours mes petites réserves, comme on en a déjà parlé. Là. Bon, c'est l'habitude. Il y a des choses que j'arrive pas à m'habituer avec Nikon, mais
c'est une ergonomie
complètement différente. Là. Puis cette fois-ci, contrairement au D600, j'ai réussi à trouver comment changer le mode autofocus, mais je suis pas convaincu des résultats. Je sais que ma 7D, je suis très, très, très gâté. Elle est reconnue pour avoir un très bon système autofocus pour les zones, etc. Puis, je vais vous donner un exemple. Ma conjointe elle faisait une course à pied récemment. Puis, j'ai voulu prendre des photos d'elle. Puis, j'avais amené la Nikon pour la tester, pour voir qu'est-ce qu'elle faisait. Puis, je l'ai regretté. Dans le sens que mes photos étaient très belle, mais quand elle courait, et pourtant pas très vite, elle avait beaucoup de misère à prendre les focus aux bons endroits, etc. Oh, okay. En zone, c'était moyen. C'était trop varié. Le résultat n'a pas été très bon. Finalement, les photos sont pas ce que j'aurais voulu avoir. C'est pas grave, là, je veux dire. Pour ce qui est du reste, quand tu as le temps de vérifier, l'autofocus est rapide, il est précis. C'est juste pour ce genre de choses-là, c'est 6 images à seconde, ce qui est quand même respectable aussi.
Tu manquais peut-être juste un peu de pratique.
Peut-être, ça se pourrait que ça soit juste ça, mais j'ai vu d'autres critiques qui disaient un petit peu quelque chose de similaire à ce que je disais. Okay. Que j'ai vu vraiment quelqu'un qui a fait une comparaison entre le D7100 et la 7D, puis sur beaucoup de points a gagné, mais l'autofocus, il disait que le 7D avait encore une petite coche au-dessus. Okay. Par rapport à ça. Pas pour la rapidité. La rapidité est très rapide, elle se fait bien. Tout ça, c'est juste...
Le suivi, si on veut, le cerveau.
Le suivi, c'est ça. Il est moins précis, disons. Encore une fois, c'est pas nécessairement un appareil qui est vraiment destiné pour le faire, mais ça s'est donné que c'est quelque chose que j'essayais de faire à ce moment-là, puis ça n'a pas été un succès, ce qui n'est pas la fin du monde non plus. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'appareil en tant que tel. On parle d'un capteur de 24 mégapixels, ISO de 100 à 6400 en standard, et on peut l'étendre jusqu'à 25600.
Mm-hmm. ISO utilisable?
6400.
Oh!
Je dirais, là, sincèrement, 6400, c'est... Puis même, j'ai essayé en 12800. Pis sais-tu quoi? J'ai pas trouvé ça si pire que ça.
T'étais comme en 1600 sur ta 7D.
Ben, presque, oui. Je dirais que le 6400, c'est l'équivalent de mon 1600.
OK. Quand
facilement.
Même.
Oh, oui. Mais tu sais, la mienne, elle a quand même 4 ans. Là. Le 7D est plus que dû pour être changé.
Mais
là,
mon 60D, qui a un an de moins, peut-être un an et demi de moins, 1600 aussi, c'est...
Ils sont relativement équivalents. Ouais. Par rapport à ça, la performance ISO là, pour la 7D et la 6D sont pas... la 60D, excuse, sont pas très, très bons.
Mm. Non, mais de toute façon, déjà... Ben, c'est un gros avantage quand tu peux monter ton ISO, tu peux sauver beaucoup de flou.
Exact, oui, exact. On parle d'un système d'autofocus à 51 points. Avec 15 points cross-type, là, comme j'expliquais, que les 4 points peuvent être utilisés aussi pour changer le focus. Mm-hmm. 1080p, un écran de 3,2 pouces,
mm-hmm.
très respectable. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui est de moins en moins fréquent, une tropicalisation égale à la D800 et D300S. Okay. Ça, c'est très bien, je mm-hmm. trouve. Justement, c'était sans dire que c'était un défaut, mais c'était une des choses qui était manquante sur la D600. J'avoue que je comprends pas trop comment qui décide qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas, mais bon, ça, c'est le marketing, honnêtement. Là. Le viseur est 100%. Fait que, finalement, on regarde ça, c'est quelque chose qui est beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses. Dans ses points positifs, comme je disais, très solide, une bonne prise en main, une qualité visuelle impressionnante, autant en JPEG qu'en RAW. Mm-hmm. Le niveau de détail est très, très bon. Okay. Ça, là, c'est irréprochable, définitivement. Là.
Et tu étais avec quel objectif, au fait?
J'ai essayé les deux. Il y a l'objectif qu'il y avait avec, qui est le 1805.
Okay.
Objectif de base, ouverture de 3.5 à 5.6. Rien d'exceptionnel, mais... Correct.
Ça donnait une bonne qualité
c'était
visuelle.
C'était correct, hein. Définitivement. Okay. L'autre objectif, j'en parlerai après.
Oui, oui.
ISO, comme je disais, très performant. Autofocus qui était quand même assez précis. Tout ça, mis à part, comme je disais, quand les objets bougent rapidement, moi, j'étais un peu déçu. Là. Je trouve que ça aurait pu être un peu mieux. Mais sinon, c'est très, très, très rapide là, pour obtenir le focus en tant que tel.
Okay.
Ça, c'est magnifique. Deux cartes SD. J'adore ça.
Vas-tu commencer à te convertir aux cartes SD d'ailleurs?
Non, là-dessus, je n'ai pas gagné. Là. Ça, non, moi, j'aimerais. Ce qui est l'idéal pour moi, c'est SD et Compact Flash. Mm-hmm. Ça, pour moi, ça serait parfait.
C'est quoi l'appareil qui avait ça?
C'est 5D Mark III.
C'est ça. Okay. Ouais, il y a un appareil aussi plus ancien qui avait ça.
Oui.
Maudit, en tout cas.
Je sais lequel tu veux dire. Je me demande si c'était pas la 5D Mark II.
Non, je parle de vraiment une couple d'années. Là.
En tout cas. Bref. autre point positif intéressant, c'est qu'on peut envoyer notre flux HD non compressé à un enregistreur externe.
OK.
Ça, c'est quand même bien.
Oh, oui.
François aime ça.
Oui, parce qu'en vidéo, du côté de Canon, on peut pas encore faire ça, à moins peut-être de bidouiller un peu le logiciel.
Sauf que et ça vient avec mon point négatif, le vidéo est moyen. Et il manque de clarté, trop, manque de piqué, puis je me suis dit, c'est-tu juste moi? Non, DP Review a dit exactement la même chose. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans leur algorithme, dans leurs affaires. Il y a un petit quelque chose de manquant de ce côté-là. Étonnamment, je dirais que le mode vidéo est la grosse faiblesse de cet appareil.
Okay.
Entre autres, pas de contrôle de l'ouverture en vidéo.
Ah ouais.
Ça, je trouve que c'est assez, excusez l'expression québécoise, fatigant, assez gossant. Il faut arrêter le vidéo, changer l'ouverture et repartir.
C'est très curieux.
Moi, je trouve ça bizarre. Tu sais, le live view est un petit peu moyen, particulièrement avec le vidéo. Tu sais, c'est vraiment là, le côté vidéo, c'est étrange comment qu'il a l'air comme c'est un peu négligé.
Ouais,
encore
ouais.
Une fois, pour la majorité du monde, je pense pas que ce sera vraiment un gros problème. Puis tu sais, c'est toujours la même chose. T'sais, tu te poses la question, c'est-tu juste moi qui est blasé ou quelque chose? Puis tu t'en vas voir 2, 3, 4, 5 sites, puis tu reçois toujours la même chose. Tu fais comme, ben ok, non, c'était pas juste moi. Finalement.
On est plusieurs à être blasés.
C'est ça. Et comme je disais, là, c'est 2, 3 sites qui me disaient la même chose. Ouais, fait ouais. Que, encore une fois, je me suis dit, bon, ok. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils peuvent arranger par micro-logiciel, par ensuite, j'en ai aucune idée. Mais disons que ce côté-là est moyen.
Ok.
Puis, dernière petite chose, le tampon, la mémoire tampon pour le RAW est pas très grosse. On peut pas prendre beaucoup d'images.
OK.
Pas la fin du monde, mais à 6 images par seconde, on aura entendu un petit peu mieux.
Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas fait beaucoup de shooting, si on veut, en rafale et tu sais, de sport ou quoi que ce soit, mais ça m'est pas arrivé souvent de faire une rafale de 12 ou 15 photos avec mon appareil.
Ça m'est arrivé
quelques
fois, moi. Ouais. Mettons, exemple, avec mon 7D, j'ai pris des photos de ma fille au soccer ou de mon gars. Puis ça m'est arrivé une couple de fois de monter à 10, 12, 13, 14 images seconde. Okay. Ça m'est arrivé quelques fois. Fait que,
ben, pas seconde, mais
12, ben, 13, de suite, en je rafale, veux dire, ouais. En rafale.
OK.
Mais bon, encore une fois, c'est-tu la fin du monde? Vraiment pas.
Mm-hmm.
Est-ce que je le recommande? Définitivement, c'est un excellent appareil. Puis là, encore une fois, je l'ai dit, puis je le répète, Canon 7D, là, il est plus que dû. Là. C'est vraiment pas la même catégorie. Ouais. Là.
Il y avait des rumeurs, mais là, on n'a rien entendu encore pour le 7D Mark II ou un remplaçant.
C'est toujours...
4 ans, là. Ouais. 4 ans.
Peut-être qu'il va y avoir un 8D.
Ouais, bon. On ne sait pas, mais Canon dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient.
Oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, mais donc... cet appareil-là est vraiment... C'est un très, très bel appareil. Franchement, là, chaudement recommandé. Oui, chaudement recommandé. Puis particulièrement, quand on le met avec l'objectif que j'ai pu tester en même temps, par chance, le Sigma 35 mm f1.4.
Oh, beaucoup d'ouverture, beaucoup de lumière.
Cet objectif est tout simplement magnifique.
Okay.
Vraiment, là, c'est un des plus beaux objectifs que j'ai vu de ma vie. Autant la conception, juste le design est très, très beau. Ça a l'air presque industriel. Il a l'air solide. Il pèse, par contre, une tonne. Il est très lourd. Mais tu as l'impression que si tu l'échappes par terre, là, ça casse pas. Là. C'est vraiment là, c'est très bien fait.
Mm-hmm.
Moteur super rapide. Tu sais... Il n'y a pas grand-chose que je peux dire de méchant à propos de cet objectif-là. Je l'ai beaucoup apprécié.
T'es pas obligé non plus.
Non, mais...
si
les deux choses... J'en ai deux, en fait. C'est pas majeur, là, mais ben, je vais dire les points positifs. La qualité visuelle est réprochable. Encore une fois, je faisais des recherches, tu sais, je me suis dit, bon, OK, ça doit être bon, puis ça. DP Review, encore une fois, qui est un site très, très, très sérieux, disent que la qualité visuelle est meilleure que Canon, Nikon, Sony... pour l'équivalent, là. Et même Carl Zeiss.
Ah ouais.
Carl Zeiss, là, qui est très, très cher, ils disent que la qualité visuelle est les plus élevée. Okay. Ce n'est pas peu dire.
Ou les bons points pour Sigma.
Oui, c'est tout un point. Là. Ils sont allés très, très fort avec cet objectif-là.
Mais Sigma orchestre en ce moment une espèce d'attaque.
J'ai l'impression,
moi aussi. Il y a plusieurs bons objectifs qui sont sortis.
Puis ils ont changé justement la conception, le design des objectifs, des boîtiers d'objectifs.
C'était surveillé avec un review comme ça. C'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que Sigma aussi sont connus pour vendre un petit peu moins cher.
Oui,
ça fait partie de ses points positifs.
Ouais.
Tu vois, c'est ça. Donc, il est rapide, Autofocus silencieux et très précis. Comme je disais, bon, superbe qualité de construction, solide, bien fait. Prix compétitif, on parle d'environ 1 000 $.
Okay.
Bon, il y en a qui vont me dire compétitif. Mais si tu regardes envers la compétition, oui. C'est, on parle de 1400, 1500, 1600 pour la compétition. Puis Carl Zeiss, beaucoup plus que ça. Fait que, définitivement, ils sont dedans. Puis attendez peut-être un 6 mois, puis je serais pas surpris que ça descende une petite affaire. Là. Peut-être un 100-150 $ quand okay. tu vas avoir des ventes, ça serait pas surprenant.
Ouais, ça arrive des ventes justement dans ces catégories-là, là, peut-être un 100 $ qu'on peut enlever dans certaines ventes, mais les objectifs, généralement, les prix, à cause du prix du verre...
C'est ça, ça change pas beaucoup, mais c'est juste que vous l'aurez pas en ce moment, mais dans 6 mois, 1 an, 100-150 $, ça serait pas surprenant.
De moins, tu veux dire?
De moins, oui, bien sûr. Non, pas à 100-150 $. Dans les points négatifs, ben, comme je dis, il est lourd. Par contre, vraiment, là, puis c'est beaucoup, beaucoup plus lourd qu'un objectif. Quoi. J'ai testé les deux, là, puis on dirait que avec l'objectif Nikon ordinaire versus le Sigma, on aurait dit que l'appareil pesait presque le double. C'était à ce point-là. Là. C'était fatigant à tenir à la longue, honnêtement. Là.
Okay.
Puis, ben, pas de. Il n'y a pas de weather sealing, pas de.
Tropicalisation,
ça ne me donne rien, je ne suis pas capable de m'en rappeler de celle-là. Il n'y a pas de. C'est pas la fin du monde, mais tu dirais, bon, un objectif du genre, tout ça, me semble que ça aurait pu être un bon bonus.
Mais est-ce que l'équivalent Canon et Nikon, c'est tropicalisé normalement? Parce que
je ne crois pas. C'est ça.
Donc
c'est pas nécessairement un défaut, mais ça aurait pu être agréable à avoir.
Ouais.
Mais encore une fois, c'est chaudement recommandé et il est disponible autant Canon que Nikon. J'ai pas vérifié par contre s'il est sur Sony, mais je sais qu'ici Sigma commence à en faire aussi pour Sony, mais ça je sais pas.
Dans le Canon, il y a des séries comme la série L que oui, ça c'est à l'épreuve de l'eau.
Ils sont
là,
presque toutes. Je pense qu'il y a quelques rares exceptions qu'ils sont pas, mais il y en a vraiment pas beaucoup.
Mm-hmm. Parfait. Bon, mais ce fut tout un épisode. trois critiques dans le même épisode.
Oui.
Donc, merci messieurs, merci François.
Merci Stéphane.
Merci Christian.
Merci Stéphane.
Et chers auditeurs, merci à vous de toujours être fidèles au poste. Et pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions à podcast@objectifnumérique.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos pour le défi numéro 3 sur la route. Donc, toujours à la même adresse, podcast@objectifnumérique.com. Et je vous garantis, allez voir les photos du premier défi. Et ce sont des photos très respectables. Il n'y a pas de photos... comment je pourrais dire? Il n'y a pas de photos ratées.
Non, vraiment
il
n'y
a pas de
pas
photos
même.
Non plus qu'on pourrait dire que c'est un grand photographe qui a fait. Donc, tout le monde est du calibre à participer. Là. C'est ce qu'on veut dire.
Oui,
tout le monde
je suis
est...
bien d'accord avec toi.
C'est ce que je veux dire. Je vais inviter les gens à participer, de ne pas être... être gêné ou avoir honte ou quoi que ce soit, c'est pas le but du tout. Là. Donc, allez-y, participez en grand nombre, ça va nous faire plaisir, même si ça fait beaucoup de travail. Gérer tout ça, c'est...
Et beaucoup de courriels qu'on reçoit
oui.
aussi.
Oui! Donc, sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter à Au Numérique et sur Facebook et Google Plus à Objectif Numérique. Merci et à la prochaine!